Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Isabelle Autissier avec Chloé Cambrelin.
Bienvenue à la masterclass d'Isabelle Autissier, enregistrée en public ici au rendez-vous de l'histoire à Blois, rendez-vous de l'histoire dont vous êtes cette année la présidente. Merci à vous Isabelle Autissier d'avoir accepté l'invitation de France Culture. Merci d'avoir accepté de nous ouvrir votre laboratoire, puisque c'est le but de cette collection de masterclass, en apprendre plus sur votre manière de travailler, de créer. Votre nom, Isabelle Autissier, votre personne est évidemment associée à la mer, à l'océan. Vous qui avez grandi en banlieue parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, vous avez par votre père, puis par vous-même, pris goût à la navigation jeune, lors de vacances en Bretagne. Vous avez ensuite cherché une activité, un métier qui vous permettrait de vivre au bord de l'océan, de travailler avec la mer. Ça a été ingénieur agronome spécialisé en halieutique, c'est-à-dire l'ensemble des disciplines ayant trait à la pêche, à l'exploitation des ressources de la mer. Une fois diplômé, vous travaillez et vous naviguez. Vous construisez votre premier bateau qui s'appelle Parole. Puis il va y avoir la course au large, la Mini Transat en 1987, le Bock Challenge en 91, votre premier tour du monde en solitaire, le Vendée Globe en 96-97, je ne cite pas tout. Vous arrêtez la course au tournant des années 2000, mais vous n'arrêtez pas pour autant de naviguer et vous racontez la mer et ses régions du bout du monde que vous aimez tant, des récits, des livres d'entretien, puis des romans. Le premier, Seule la mer s'en souviendra, est publié en 2009. Puis il y aura L'amant de Patagonie, Soudain, Seul, Oublier Clara et Le naufrage de Venise, paru en 2022. Entre-temps, vous devenez en 2009 présidente du WWF France. Vous en êtes désormais présidente d'honneur, ingénieure, navigatrice, écrivaine, militante, portée par des rêves sans doute, par le travail sûrement, que ce soit pour parler de la navigation, de l'écriture ou même de votre expérience au WWF France. Il y a, lorsque l'on vous lit, lorsque l'on vous écoute, Isabelle Autissier, la curiosité, l'envie, la détermination et le travail pour y arriver. Est-ce aussi cela qui vous guide, qui vous a guidé, apprendre, le goût d'apprendre ?
Je pense que j'ai eu cette chance, effectivement, quand j'étais petite, je crois que je dois beaucoup à l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, qui était à la fois très ouvert. On m'a beaucoup ouvert de portes, en fait, sur beaucoup de choses. Donc, mais aussi, on m'a appris ça. On m'a appris que tu veux quelque chose, ma fille, il faut te retrousser les manches pour le faire et pour l'avoir. Et même quand on naviguait, donc il y avait un côté évidemment très ludique, on était sur le bateau, ça bouge, on va dans l'île, on fait des tas de choses, c'est très drôle. Mais il y avait le tableau noir, les calculs de marée, les calculs du courant. Moi, à 10 ans, je faisais du calcul vectoriel pour les courants. J'ai appris beaucoup
avec votre père,
ce que c'était. Mon père, voilà, qui était ingénieur, il attachait aussi de l'importance au fait qu'il y avait un apprentissage de la mer, qui avait une partie évidemment pratique, bien sûr, mais aussi une partie théorique. Il fallait comprendre la météo, il fallait comprendre. Donc moi, j'étais en quelque sorte biberonnée à ça, au fait que qu'il y a un chemin, qu'il y a un parcours, que les choses vous arrivent pas dessus comme ça, et que ce parcours, il est fait de travail. Moi, j'ai presque plutôt envie de dire d'activité, parce que souvent, quand on parle de travail, on parle de quelque chose un peu contraignant, Oui. Faut aller au travail. Voilà, ça a un côté un peu lourd comme ça. Pour moi, ça a toujours été du bonheur, donc c'est une activité. Et c'est vrai que vous préparez pas un tour du monde sans bosser de 7h du matin à 11h du soir, 7 jours sur 7, pendant le temps qu'il faut. Voilà, c'est bien sûr du travail. C'est, pour moi, j'appelle ça plutôt de l'activité.
De l'activité et la curiosité et le goût d'apprendre, qui a été quelque chose, me semble-t-il, qui peut aussi être un fil rouge de votre vie pleine comme un œuf, comme vous dites.
Ouais, ouais, c'est une curiosité qui est peut-être un peu maladive d'ailleurs, je ne sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, alors, on ne peut pas tout faire. Je suis obligée de me raisonner et de me dire bon, une chose à la fois, sinon je ne vais pas y arriver. Mais j'adore pousser des portes. Donc, il y a eu celle de la course au large, bien sûr. Il y a eu celle de l'écriture. À un petit niveau, celle un peu de la scène, puisque je raconte des histoires de mer avec un musicien. Bon, ben voilà, à chaque fois, c'est des univers qui ont leur façon de faire, leurs lois, leurs règles, leur richesse, leurs personnages, et moi j'adore ça, faire la petite souris, arriver comme ça et commencer par regarder un peu tout ça et puis essayer de tracer ma route. Et je sais qu'à chaque fois c'est une route que, bah, quand je me suis mise à écrire, je savais que ça allait être pour des années, enfin, que voilà, que je rentrais dans une dynamique, que j'allais apprendre, que j'allais travailler. Et j'accorde beaucoup d'importance à ça, en fait. C'est ça qui me construit, au fond.
Vous avez parlé de la famille, de ce que vous avez appris votre père. Et à l'école, quel élève étiez-vous, Isabelle Autissier?
Alors, j'étais pas une mauvaise élève, mais vous savez, j'étais de ces élèves qui gèrent. Qui gère la moyenne de manière à pas être embêté. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc des fois le premier trimestre, c'était un peu moyen. Puis je me disais non, je vais pas redoubler parce que je voulais pas trop, j'avais quand même ouais une soif d'action, d'être dans le grand bain, quoi. Donc j'étais ravie de faire des études et j'étais ravie d'en faire, de faire l'agro, de faire prépa, de faire l'agro. Mais voilà, quand même, globalement, il fallait pas trop que ça traîne non plus, quoi. J'avais hâte. C'était aussi une question peut-être de génération. J'avais hâte, même si j'étais dans une famille géniale, de partir de chez moi.
Vous étiez 12 à la maison.
Oui, on était en tribu. C'était une des rares familles qui restait peut-être un peu comme ça, même à cette époque, au tournant des années 60. On vivait avec mes grands-parents des deux côtés. Voilà, on vivait, donc on était 12 à table tous les jours. Et sur les 12, il y avait 10 femmes et 2 hommes, mon père et mon grand-père. Donc c'était un petit clin d'œil. En même temps, c'était une richesse incroyable. Je ne sais pas comment maman faisait pour gérer tout ça. Imaginez que vous habitez avec vos parents et vos beaux-parents. Vous les adorez, c'est pas simple. Bon, mais ça se passait pour nous, les enfants. C'était extraordinaire. D'abord, toujours quelqu'un pour s'occuper de nous. Et puis, ces générations différentes et ces points de vue différents. Et moi, j'ai aussi beaucoup appris ça. Et beaucoup appris... parce que c'était comme ça dans la famille, aussi ce respect des gens qui n'étaient pas toujours d'accord et qui trouvaient quand même un modus vivendi. Donc, c'est des choses qui me sont restées.
On a l'impression que vous avez toujours vécu avec des histoires. Vous dites qu'enfant, vous lisiez beaucoup, qu'ensuite, en mère, vous vous racontiez des histoires, vous imaginiez des personnages. Ça vient d'où? Est-ce que ça a toujours été là, voilà, de s'inventer des histoires?
Je sais franchement pas d'où ça vient, mais c'est vrai que j'ai toujours vécu avec des histoires. Et même petite fille, il y a des fois, je pouvais rester assise sur une chaise, les yeux fermés, je me racontais des histoires. Et je m'embarquais moi-même dans des... J'ai passé le Cap Horn des centaines de fois avant de le passer pour de vrai. Et ça, je crois que ça m'a aussi beaucoup construite. Et ça m'a enthousiasmée, ça m'a donné envie. Parce qu'à un moment donné, bon, on se raconte l'histoire et puis un jour, on a envie quand même d'y aller pour de vrai, quoi. Et je crois aussi que c'est quand même un peu le propre de l'homme que de se raconter des histoires. On se raconte des histoires collectives, hein, c'est pas moi qui le dis. Et à partir du moment où on y croit tous, voilà, ça fonctionne dans nos sociétés. Et on voit bien que dans l'histoire des humains... ce sens de l'histoire a changé. On se raconte des histoires différentes. Donc moi, j'ai toujours été... Bon, après, je l'ai un peu compris de manière plus intellectuelle, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai beaucoup lu à l'époque. C'était la lecture, quand même, l'essentiel. Et j'adorais, oui, j'adorais
ces mondes. Les récits de voyage, notamment.
Les récits de voyage, bien sûr. Aussi, pas mal de choses un peu historiques. J'aimais bien. Tout ce qui était aussi de l'ordre des contes et légendes, c'est-à-dire les choses fantastiques, vous savez, les choses qui adviennent comme ça, qui sont très mystérieuses. Donc oui, ça m'a toujours bercée. Et j'ai eu envie aussi, à mon tour, de raconter des histoires.
Et voilà, alors justement, comment est arrivée l'écriture? Nous allons bien sûr parler de ce que vous avez publié. Mais y a-t-il des choses avant tout ça, des choses qu'on ne connaît pas? Est-ce que vous écriviez bien avant que l'on vous lise?
Oh, pas vraiment. Bon, comme toutes les petites filles, j'avais mon petit journal de petite fille. Mais enfin bon, ça a pas duré très très longtemps. Je n'ai pratiquement rien écrit, sauf quelques articles parfois dans des journaux ou pour des collaborations, avant vraiment de me mettre à écrire. Il y avait une raison très pratique, c'est que j'avais pas le temps et que l'écriture demande, encore une fois, on parlait de travail tout à l'heure, c'en est un vrai pour le coup, qui demande beaucoup d'heures que je n'avais pas. Donc j'ai toujours aussi essayé de faire attention, ce que j'ai dit tout à l'heure, de pas tout faire en même temps parce que je pense qu'on fait tout mal. Donc quand il y avait un temps pour la mer et le bateau, bah c'était ça et pas tellement autre chose. Ce qui ne m'empêchait pas de, moi je fonctionne beaucoup par l'imprégnation. Par exemple, je supporte pas de faire une photo parce que je déteste avoir quelque chose qui s'interpose entre moi et ce qu'il y a. J'ai besoin d'être dedans, d'ouvrir les yeux comme une chouette, là, d'écouter, de sentir le vent d'où vient sur ma peau, sur la joue gauche, sur la joue droite, de qu'est-ce que ça sent. Voilà, j'ai besoin d'avoir cette espèce d'imprégnation dans le réel. Et je sais qu'après ça, c'est stocké quelque part et que ça ressortira un jour. Ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas, c'est stocké quelque part. Donc moi, je fonctionne beaucoup comme ça en fait.
Avant les livres, en effet, il y a eu des chroniques en mer, publiées notamment dans Libération. Nous allons parler du contenu, mais d'abord peut-être dites-nous comment ça s'est passé, pourquoi vous avez eu envie de faire ça, sachant que lorsqu'on lit ces textes, on peut encore les lire en ligne, on voit qu'il y a déjà un goût pour l'écriture, pour le travail des mots, de la langue. Vous ne racontez pas seulement les faits, voilà, aujourd'hui, c'est ça, et mon bateau, il va comme ci, comme ça, c'est... Un peu plus que ça, quand même.
Oui, alors, à l'origine, c'est un peu un hasard. Hein. Je ne sais pas pourquoi Libé me propose ça dans les gens qui faisaient le Vendée Globe, puisque c'est pendant le Vendée Globe. Ils ont dû regarder un peu qui y avait et pourquoi ils m'avaient proposé à moi, je ne sais pas. Moi, j'ai accepté tout de suite parce que j'aimais bien, je suis une grande lectrice, donc, et puis... dans un petit coin de ma tête, même si j'avais rien rédigé vraiment, mais c'était une aventure qui pouvait me tenter un peu, donc je me suis dit, bon, essayons. Ce qui m'intéressait aussi, c'est très compliqué. Quand on fait ce genre de choses, des tours du monde en solitaire ou des grandes navigations, comme vous dites, on peut raconter, on peut dire, voilà, il y a eu le vent, comme ci, comme ça, j'ai vu passer un albatros, j'ai fait ça avec mon bateau, et voilà. Et puis, il y a une espèce d'indicible. Il y a quelque chose de ce que j'éprouve profondément quand je suis en mer, voilà. Et cet indicible, c'est difficile de le raconter de manière linéaire. Par contre, on peut justement, quand on a capturé des images dans la tête, on peut essayer de redonner ces images et de se dire, à travers ça, peut-être que les gens vont comprendre un peu quelque chose de ce que j'ai dans la tête à ce moment-là. Donc c'était un peu ça au fond qui m'a guidée dans ces chroniques. C'est de parler de moments maritimes, mais de les relier à autre chose, de partir d'une image, de voilà.
Chroniques qui ont commencé alors avant le Vendée Globe, puisque vous avez déjà une sorte de journal de bord publié pendant votre deuxième book challenge, donc on est en 94, avant votre Vendée Globe, et notamment donc le book challenge, on rappelle, c'est un tour du monde à la voile en solitaire avec étapes. Vous l'avez fait une première fois, vous l'avez fait une deuxième fois. La deuxième fois, ça a été agité. Durant la deuxième étape, vous avez dématé, vous avez navigué jusqu'aux îles Kerguelen pour réparer, vous êtes reparti, puis vous avez été prise dans la tempête. Vous avez été sauvée, mais vous avez dû laisser votre bateau. Et voici, par exemple, un extrait du texte que vous avez envoyé donc à Libération après votre sauvetage du 31 décembre 94 et qui a été publié le 5 janvier 95. Il est intitulé « C'était une nuit de réveillon, une nuit de cotillon ». Voici comment il commence. Allongée dans la voilerie humide et froide, la tête enfouie dans les voiles au goût de sel, la couverture de survie en aluminium m'enveloppe comme une géante papillote de fête. Il paraît qu'il danse cette nuit-là, là-bas, sur la terre, qu'il fête ce symbolique passage du temps. Moi, je n'ai rien à fêter, alors mon repas de fête est une purée déshydratée, ma robe de bal, l'épaisse combinaison de survie, et le cri du vent, mon air de cotillon. Et la fin ? Cette nuit du 31 est ma dernière à bord, je sais mon élitreuillage programmé pour l'aube. J'ai attendu tant d'aubes sur ce bateau, calé à la table à cartes, veillant sur le pont, buvant un thé. J'ai attendu tant d'aubes dans les calmes langoureux ou des mers de colère. Est-ce aujourd'hui la dernière? Ce ciel qui lentement s'éclaircit comme un espoir. Il y aura, je le sais, d'autres aubes sur la mer. Il y en a eu beaucoup d'autres.
Il y en a eu beaucoup d'autres. C'est drôle, je suis très émue.
Ah, vous êtes émue, je vois.
Je suis émue, ouais. Parce que c'est un grand moment, en fait. Hein. À la fois de deuil, d'un espoir, d'une course, d'un bateau, j'étais en tête, tout ça, voilà. C'est un moment d'espoir pour ma vie, parce que je suis en train de sauver ma vie. C'est un moment de cette solidarité avec des autres humains qui viennent me chercher. Voilà, et c'est vrai, vous avez raison, c'est pas dans le Vendée Globe que j'ai commencé à écrire, c'est donc avant, c'est donc dans ce tour du monde-là. Et voilà, exactement ce que j'essaye de faire, c'est... Je ne vais pas vous raconter dans le détail tout ce qui s'est passé, l'avion qui me survole, qu'on voit des choses, etc. Je vais essayer de vous raconter cette espèce de distorsion du temps où c'est le réveillon du 1er janvier, Et moi, je suis dans un bateau à 2000 km de l'Australie, dans un bateau dématé, avec ce 1er janvier qui s'annonce comme une nouvelle vie quand même. Donc c'est essayer de trouver quelles sont les images qui vont pouvoir vous faire comprendre ce que j'éprouve à ce moment-là.
On imagine bien que ce texte, vous l'avez écrit après votre sauvetage, mais penser l'écriture en mer, écrire depuis la mer, et donc vous l'avez refait ensuite pour le Vendée Globe. Comment ça se passe lorsque vous êtes seul, que vous devez penser à tout, que c'est compliqué, mais je veux dire, même quand vous n'avez pas de problème particulier, c'est quand vous êtes quand même très occupé avec votre bateau en course. Quel chemin emprunte l'écriture, voilà, pour se faire une place dans
alors,
tout ça
Évidemment, la priorité, c'est au bateau, à la vitesse, bon, voilà, tout ce qu'il faut faire. En même temps, on se rend pas tellement compte que dans un bateau en course, il y a beaucoup de moments de contemplation qui sont importants. Je vais regarder comment passent les nuages, je vais regarder comment la houle évolue, je vais, en essayant de décrypter les choses, mais il y a tous ces moments où forcément, on pense aussi à autre chose. Et c'est là qu'il y a comme des petites bulles de choses qui vous... Pour moi, c'est des... Justement, c'est des images qui me viennent. L'idée de la papillote, voilà, de fête, c'est une image qui me vient à ce moment-là, parce que je vois donc la couverture de survie, qui est toute brillante, et quand je dors, je suis enveloppée dedans, et tout d'un coup, j'ai cette image qui me vient à la tête. Donc, c'est... Encore une fois, je suis la première auditrice de mes histoires. C'est-à-dire que j'ai ces images qui me viennent dans la tête, j'ai cette construction de l'histoire qui, petit à petit, me vient dans la tête, et je l'écoute, j'écoute ce qu'un coin de ma tête me raconte, et j'essaye de voir si c'est partageable, si c'est audible, si c'est... Voilà. Et pour ça, les mots sont très importants. Mmh. Pour ça, les mots doivent avoir une certaine précision, mais aussi un rythme, une musique, quelque chose qui fait que, comme dans une symphonie, il y a des notes, mais c'est l'agencement des notes qui fait qu'à un moment donné, la mélodie vous parle. Donc, c'est un peu pareil avec les mots. Il y a des mots, il y a des phrases, mais ce qui compte, c'est la mélodie globale du texte.
Vous reprendrez cette écriture pour Libération en direct de l'océan pendant le Vendée Globe, donc. Mes fleurs, ma musique, mon bateau, le vent est mon royaume, le temps qu'il passe est celui qu'il fait, envie de crier, râler, hurler. Ce sont quelques titres de vos chroniques. Et puis, évidemment, il y a toujours, tu t'en souviendras, ce texte très fort que vous écrivez après la disparition de Jerry Roof dans le Grand Sud, après une terrible tempête dans laquelle vous étiez vous-même très en danger. Vous aviez fait demi-tour pour tenter de le retrouver car il ne répondait plus, il n'a pas été retrouvé. Et vous avez écrit ce texte où l'océan parle à la première personne. L'océan qui vous donne une leçon. Je sais que tu vas continuer, naviguer encore, peut-être revenir, mais toujours tu te souviendras qu'à quelques milles de toi, un jour de janvier, un homme est passé dans l'envers de la vague. Ils sont 100, ils sont 1000, ceux que je berce de mes silences, pêcheurs, découvreurs, marchands, coureurs des mers. Toujours il en viendra et toujours je prélèverai mon dû. Pourquoi est-ce l'océan qui dit « je » dans ce texte ?
Je ne sais pas, j'ai craché ce texte. C'était dur. C'était dur parce que, d'abord, il y avait eu cette tempête qui est la plus violente que j'ai jamais rencontrée. Le bateau, moi, mon bateau s'est couché 6 fois, il s'est redressé, tant mieux. Celui de Jerry ne s'est pas redressé. Je fais demi-tour, je le cherche pendant 3 jours, je le trouve pas. Tout ça est une frustration terrible. Au bout d'un moment, on me dit qu'il faut que je reprenne ma route. Bon, j'ai pas envie, puis en même temps, faut le faire. Voilà, donc je suis dans un état de frustration. Et pour la première fois, la mer n'est plus un univers de bonheur. Pour la première fois, je m'en prends plein la gueule, excusez-moi. Et donc, j'ai ce... voilà, il faut que ça sorte. Il faut que... Oui, j'ai peut-être un peu cette impression que... la façon de personnifier l'océan, c'est aussi une manière de presque un peu de l'apprivoiser quand même. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'il me dit ça, qu'il me dit, attends, je suis pas un terrain de jeu. Toi, t'es pas un poisson. Donc, on est d'accord que c'est très bien, tu vogues sur les flous, mais attention, c'est aussi une question de vie et de mort. Et il faut pas l'oublier. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas oublié. Je me souviens très bien que, donc, dans cette tempête, à un moment donné, on peut plus rien faire. Hein. On a fait tout ce qu'on sait faire. On a mis le bateau dans la meilleure configuration possible. Et puis après, il se passe ce qui doit se passer. Et donc, moi, j'ai eu ce sentiment pour moi. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien. ça va peut-être s'arrêter là, parce que peut-être que voilà, ou bien ça va continuer, j'espère, et voilà. Ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à un autre marin, ce qui est très compliqué aussi quand même, hein, parce que la solidarité c'est la base de nos navigations, parce que on est très proches les uns des autres, parce que puis voilà, parce qu'encore une fois, tout d'un coup, c'était plus du jeu quoi. C'était de la vraie vie et ben c'est bien, je le sais. Enfin ça a sûrement donné plus de gravité à mes navigations, mais peut-être tant mieux.
Il y a eu d'autres courses après ce Vendée Globe, mais vous savez déjà que vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Vous arrêtez donc la compétition au tournant des années 2000. Et les livres vont arriver. Alors, il y avait eu déjà des récits autobiographiques, mais il y a ce livre Kerguelen, le voyageur au pays de l'ombre, publié chez Grasset en 2006. Une approche historique et personnelle aussi de ces terres que vous connaissez, qui sont donc celles où vous vous êtes arrêté pour réparer votre bateau en décembre 94, pendant le Bock Challenge qu'on a évoqué. Plus tard, vous les avez parcourus à pied, ces îles Kerguelen. Pouvez-vous nous parler de ce livre? Pourquoi ce livre? Et de ce qu'est ce livre?
Alors, pour le coup, on est en plein dans les rendez-vous de l'histoire. ma première découverte des îles Kerguelen, c'est tout noir. Et c'est rarissime. Quand vous êtes le long d'une côte la nuit, il y a toujours un petit lumignon quelque part. Il y a toujours une maison, il y a toujours une voiture qui passe, il y a toujours un lampadaire, quelque chose. Et là, pendant toute la nuit, c'est une nuit très noire, en plus, il y a beaucoup de nuages, et je suis tout près de cette côte, et je ne vois rien. Je me dis, waouh! C'était comme ça, les premiers qui sont allés là, qui n'avaient pas de cartes, qui ont fait les cartes, c'était comme ça, et au petit matin, tout d'un coup, la vigie a dû voir que on était tout près de terre, alors que personne n'imaginait qu'il y avait une terre. Enfin, voilà, ce côté-là me fascine. Et quand on navigue, surtout peut-être encore plus dans ces mers qui sont un peu difficiles, elles sont les mêmes qu'il y a 300 ans, ou même qu'il y a sans doute 3000 ans, quoi. Sauf que l'histoire des hommes a évolué depuis, entre les deux. Et quand même, forcément, ça vous rend un peu humble. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous avez des cartes qui sont assez bonnes, vous avez des bons équipements, vous avez des bateaux qui manœuvrent bien. Et voilà, et ce lien dans l'histoire avec ces gens qui partaient, alors pour le coup, vraiment à l'aventure, qui découvraient la Terre, qui dessinaient la Terre. Donc j'étais assez fascinée, et en rentrant de cette histoire-là, je me suis intéressée à Monsieur de Kerguelen, donc le découvreur des îles
éponymes. Yves-Joseph-Marie de Kerguelen de Trémarec.
J'ai découvert un personnage tout à fait romanesque, hein, il a des aventures pas possibles, et ses histoires avec la petite Louison, etc. Enfin bon, mais aussi, c'est intéressant de voir comment, à l'époque, ce jeune noble plein d'ambition et d'espérance va se confronter à une réalité extrêmement difficile. Comment est-ce qu'il va un petit peu tricher quand même avec les choses, hein, comment il va être rattrapé par la réalité. Enfin voilà, tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, et j'avais envie à mon tour de raconter cette histoire.
C'est aussi, je crois, une étape importante dans votre parcours, Isabelle Autissier, ce livre, parce que donc on n'est pas encore dans les romans, ça arrivera après, mais ce que vous avez raconté parfois, c'est que, en réalité, les navigateurs, surtout ceux du Vendée Globe, sont souvent sollicités à l'arrivée par des éditeurs qui voient bien ce qu'il peut y avoir d'intéressant à raconter, les récits de course. Mais que de là à laisser les navigateurs devenir des auteurs à part entière, écrire et en plus écrire tout seul, c'est encore un autre sujet.
Oui, mais ça c'est parce que je suis très orgueilleuse en fait. Et que oui, bien sûr, vous avez raison, quand vous revenez, il y a un certain nombre de maisons d'édition qui viennent vous voir en disant, bon voilà, vous allez raconter votre histoire, mais rassurez-vous, vous allez rien écrire, il y aura quelqu'un de très compétent, vous aurez juste à lui raconter 3-4 trucs, quelques anecdotes, et puis il fera un bouquin, et puis on mettra en gros votre nom, et puis en tout petit, avec la collaboration de... Et comme moi, je me dis, non, moi je veux pas ça, moi je veux, comme une grande, je vais essayer d'écrire. Du coup, cette affaire a un petit peu traîné jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre effectivement Manuel Carcassonne, il faut que je le lui rende, qui était à l'époque, qui était directeur littéraire chez Grasset, qui me prennent à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils me disent, qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous avez quelque chose à nous dire? Et vous savez que c'est du travail, je me souviens qu'il m'avait dit ça. Alors ça, il fallait pas me dire ça, parce que là, c'était le bon moyen pour m'appâter. Vous savez que, voilà, écrire un livre, c'est du temps, du travail, vous êtes prête à ça? Et j'avais en tête cette histoire de Kerguelen, que je trouvais une belle histoire. J'ai presque un peu de tendresse pour ce personnage, en fait, qui est une espèce de loser. Mais voilà, donc je lui raconte en deux mots, et il me dit, bon, bah... Ok, bah essayez, allez-y, et puis voilà. Donc c'est vrai que pour moi, je pensais pas du tout au roman. Pour moi, le roman c'était fait pour les romanciers et les romancières, pas pour moi. Mais dans cette affaire de Kerguelen, j'ai adoré aller à la Bibliothèque nationale, retrouver les écrits, etc. Mais je m'appuyais en quelque sorte quand même sur une histoire réelle, même si forcément il y a le côté roman historique, c'est-à-dire que quand même j'imagine mes personnages, j'imagine ce qu'ils ont dans la tête, je décris des choses, voilà. Donc c'était une forme de transition. Et après on m'a un peu poussé à ça, on m'a dit mais pourquoi t'essayes pas le roman? J'ai dit oui, bon, oh, allez, essayons. Voilà, c'est encore une porte qu'on essaye de pousser. Et de fait, voilà, après je suis passée au roman avec finalement beaucoup de délectation.
Et le premier, c'est donc « Seule la mère s'en souviendra », qui est publié en 2009 chez Grasset Toujours. Ce roman s'inspire du Golden Globe Challenge, première course autour du monde à la voile en solitaire et sans escale, organisée en 1968-69. 9 candidats prennent le départ. Pas en même temps, ils partent quand ils sont prêts, dans une fenêtre de quelques mois. Il y a 2 prix à la clé, un prix pour celui qui arrive en premier, un autre pour celui qui aura été le plus rapide. En réalité, un seul terminera, Robin Knox Johnston. Ça n'est pas lui qui vous inspire pour ce roman. Ça n'est pas non plus le Français Bernard Moitessier qui décide de continuer, de ne pas franchir la ligne d'arrivée, une aventure qu'il racontera dans son livre « La longue route ». Celui qui vous inspire, c'est Donald Crowhurst, devenu dans votre roman « Peter March ». Un inventeur qui s'élance à bord d'un trimaran qui n'est pas prêt, qui n'est pas terminé, qui va connaître très vite ce Peter March des difficultés de navigation, des difficultés avec son bateau, mais aussi avec lui-même face à cette épreuve de la solitude. Et il va faire croire qu'il est en train de faire le tour du monde, alors qu'en réalité il erre dans l'Atlantique et qu'il fait demi-tour après un long arrêt en Argentine. Finalement, il ne reviendra jamais, il se jette par-dessus bord après être entré dans une forme de délire mystique. Son histoire a inspiré des films aussi. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un roman à partir de lui, Isabelle Autissier? Et comment avez-vous trouvé votre place, la place du roman, à partir de cette histoire?
Alors, en fait, je me rends compte que chacun des romans que j'ai fait répond à une espèce de question que je me pose. Voilà. Là, en l'occurrence, c'était la question de la vérité et de ce rapport qu'on a à la vérité quand on est entre nous humains ou quand on est dans la nature. Et que, en gros, et pour faire très caricatural, je peux vous raconter n'importe quoi, je peux avoir une vérité tout à fait inventée et tout à fait, je peux soutenir n'importe quelle théorie parce qu'on est entre humains. Par contre, dans la nature, bah, il y a des lois de la physique, de la chimie, de la biologie, il y a des choses qui font que je peux même pas me raconter une histoire à moi-même, parce qu'à un moment donné, il y a une forme de sanction, alors que sanction positive, négatif, mais voilà, il y a les conditions de l'environnement, les conditions dans lesquelles on évolue, sont sans appel. Et au final, moi, je trouve que c'est intéressant. Mais évidemment, mon personnage, qui pour tout un tas de raisons est une sorte de hableur, lui, ça va être dramatique, quoi. Donc c'est ce rapport à la vérité, en fait, qui m'intéressait.
Et oui, c'est ça, parce que en fait, j'ai relu dans les papiers de l'époque, enfin au moment de la sortie du livre, souvent il y a écrit le roman d'un tricheur et tout. Mais en fait, c'est pas tellement la question qu'il ait triché en faisant croire qu'il continuait son tour du monde, alors que non. En fait, la triche, c'est la triche vis-à-vis par rapport à lui-même, en fait.
Oui, c'est pour ça qu'il devient fou, d'ailleurs. Voilà. C'est parce que à un moment donné, il a totalement besoin de se justifier par rapport à lui-même, donc il rentre dans une espèce de logique. Il n'arrive pas à accepter, au fond, ce que la mer lui renvoie, ce que les conditions de navigation lui renvoient, de son bateau pas prêt, de lui qui est pas prêt du tout, voilà. Et donc il va petit à petit dériver. Il essaye de garder la réalité le plus loin possible, et donc bien sûr, il en devient fou, et c'est assez tragique en fait.
Et on le comprend très vite en lisant le roman. Alors, en fait, le roman alterne entre le journal de Peter March et celui de sa fille Eva, qui a 14 ans lorsque son père se lance dans la course. Et donc, on comprend très bien, très vite avec lui que ça va très mal se passer, en fait, au-delà même des problèmes techniques. On peut lire, c'est vers le début, « Je ne crois pas être un solitaire dans l'âme », donc c'est lui qui écrit, « Un moitessier exultant au seul son des vagues, j'aime parler, j'aime rire, j'aime discuter, je n'ai jamais cherché à m'isoler, les autres me font exister, j'adore persuader, faire craquer peu à peu les résistances de mes interlocuteurs, voir leurs yeux s'affoler, sourire ou devenir songeur, je reconnais que la solitude m'est désagréable, mais je vais m'habituer ». En réalité, non, il ne s'habituera pas. Et ça, c'est une chose que l'on retrouve dans tous vos récits, fiction et non-fiction, Isabelle Autissier. La navigation, la mer, comme lieu de révélation à soi-même, comme grande épreuve de vérité, en quelque sorte.
Ah oui, ça vous rate pas. Hein. Oui, c'est et d'ailleurs, c'est bien. C'est pour ça que quand on y va, il faut y aller le plus apaisé possible et prêt à tout, quoi. Et souvent, des gens viennent me voir en disant, voilà, moi, je veux partir tout seul en bateau. Je dis, bon, allez-y tranquillement, quoi. Allez d'abord voir si vous vous sentez bien là-dedans, dans cette solitude, dans ce face-à-face, dans effectivement ce lieu où vous ne tricherez pas. Donc, il va falloir aussi affronter, alors encore une fois, des bonnes et des mauvaises choses, et il va falloir les intégrer, quoi. Voilà, c'est. Et en mer, souvent les gens me disent, vous repoussez vos limites. Je les repousse pas. Je tâtonne et j'essaye de les sentir. On en a tous. Donc j'essaye de tendre mon bras de plus en plus loin. Et puis à un moment donné, je sens, je sens que voilà, que c'est limite pour moi. Donc je sais, quoi. Et donc c'est extrêmement formateur en quelque sorte. Moi, j'y ai trouvé aussi justement une forme d'apaisement. Je sais mieux qui je suis quand je reviens que quand je pars. Je sais mieux où j'en suis. Même quelque chose de très simple, donc j'aime bien parler, parce que s'il fait beau et clair et que c'est une belle nuit étoilée, vous vous couchez sur le pont, vous regardez les étoiles et là, waouh, vous voyez le cosmos. Et tout d'un coup, vous vous apercevez que vous êtes un grain de poussière qui s'appelle la Terre dans le cosmos. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude aujourd'hui de voir et de connaître dans la vie de tous les jours. Et ben cette espèce d'expérience qu'on fait à ce moment-là, elle est très forte, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est quelque chose qu'on porte après avec soi, et tant mieux.
Elle est très forte, mais elle peut aussi donner le vertige. Et en fait, tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne sait pas comment on y réagit. C'est aussi ça qu'on comprend en vous lisant, Isabelle Autissier. Encore une fois, à la fois dans vos romans et en dehors des romans. C'est-à-dire, et on en revient au début, la mer, la navigation, ça s'apprend. L'aventure, c'est pas qu'un rêve. Enfin, si ça n'est qu'un rêve, ça peut mal se passer, quoi.
Oui, bien sûr. Alors, ce qui s'apprend, c'est des techniques. Ouais. Ce qui s'apprend, c'est la manœuvre, c'est aussi de l'expérience, etc. Mais du coup, cet apprentissage des techniques, ça a quand même un effet assez tranquillisant. Parce que moi, en gros, je sais à peu près comment réagir. J'ai un plan A, mais j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D. Donc, du coup, je suis plus libre, justement, de me laisser aller à mes rêveries, à mes idées, je suis moins stressée, peut-être, que des gens qui vont naviguer la première fois et qui sont stressés juste parce que tout d'un coup, ils ne voient plus la Terre, quoi. Moi, j'ai l'impression que quand je ne vois plus la Terre, je rentre chez moi. Je pousse la porte et j'arrive chez moi, quoi. Donc, je suis plus. Et cette familiarité que j'ai apprise, hein, que j'ai petit à petit réussi à tricoter avec la mer et le ciel, c'est dans cet univers que je vais pouvoir tranquillement, parce que j'y suis bien, me laisser aller et justement lâcher prise. Ce que je trouve très important, parce que on n'a plus beaucoup l'occasion de le faire dans nos vies, on est tout le temps sous contrainte et on est tout le temps en train d'essayer de tout contrôler. En mer, si vous voulez que ça se passe bien, il ne faut pas faire comme ça. Il faut lâcher prise. Il faut s'abandonner à la mer et au vent. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif et qu'on ne fait pas plein de choses. Mais c'est plus moi qui gouverne. Moi, je vais juste essayer d'aller avec. Et cet apprentissage d'aller avec, qui va, pour moi, après, beaucoup se répondre dans la question environnementale, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'aide énormément dans la vie de tous les jours.
Et c'est ce que n'arrive pas à faire ce Peter March de votre roman. Alors, donc, ce premier roman, il ne va pas de soi dans son écriture, comme vous l'avez dit. On vous pousse un peu, mais il y en aura d'autres. Ensuite, L'amant de Patagonie, publié en 2012, qui raconte l'histoire d'Émilie, orpheline écossaise qui part en 1880 Pour le Nouveau Monde, assister la femme d'un pasteur. Ce Nouveau Monde, c'est donc la Patagonie, le sud de l'Argentine. Le livre raconte la rencontre, confrontation entre ces Européens qui arrivent et les populations indiennes qui vont quasi disparaître en quelques années. Il y a ensuite, en 2015, Soudain seul, qui est l'histoire d'un couple de trentenaires, Louise et Ludovic, des Parisiens qui rêvent de nature, de vie sauvage, et qui vont se retrouver isolés, coincés sur une île du bout du monde, jusqu'à ce que la question « vivre seul ou mourir à deux » se pose. Comment vous est venue cette envie d'écrire l'histoire de ce couple? Et qu'aviez-vous envie d'écrire avec ce livre, Isabelle Autissier? Parce que là, on est encore peut-être à une étape supplémentaire dans votre parcours d'écrivaine, c'est-à-dire
oui,
que...
Oui, non, mais on monte les marches de l'escalier voilà. Petit à petit. Hein. On apprend, on travaille, on apprend.
On est de plus en plus dans la fiction,
oui,
véritablement.
Bien sûr, puisqu'on quitte un peu le roman historique pour arriver au roman pur, j'allais dire. Bah, là aussi, c'est un peu cette question, puisque c'est le moment où aussi... Je deviens président du WWF, donc organisation environnementale, et je me dis, il y a quelque chose qui cloche dans notre relation à la nature. On sait plus ce que c'est. Et je prends souvent ça comme exemple. Les enfants de 10 ans connaissent mieux les marques de chaussures que les arbres. Ils savent pas distinguer un platane d'un érable.
Pas que
par
les
contre,
enfants de 10 ans.
Entre des Nike, des, je sais pas quoi, des Converse et des je ne sais quoi, ils savent très bien. C'est un problème. C'est un problème. On est complètement coupé de ce qui fait notre vie. Parce que, au départ, c'est ça, c'est la nature, on en fait partie, on est dedans, on en bénéficie tous les jours, et sans elle, on n'existerait pas. Et le fait de couper ce lien, je pense que c'est une des origines de nos problèmes d'aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai imaginé des gens qui peuvent être vous et moi, un couple, tout va bien, la vie est belle, ils décident de la grande aventure, ils se retrouvent dans cette île hostile, puisqu'elle est froide, et ils perdent leur bateau, et il n'y a personne d'autre, et personne ne viendra peut-être, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils envisagent, avec horreur évidemment, qui vont peut-être rester là toute leur vie et qui vont peut-être mourir là. Puis comme la vie est difficile et qu'ils ont du mal à se nourrir et qu'ils passent 80% de leur vie à essayer de trouver à manger, bah voilà, il y a un moment où ils se disent on va peut-être pas passer l'hiver. Et voilà, et comment ça se traduit cette angoisse dans un couple qui s'aime, qui au départ va beaucoup se soutenir l'un l'autre et puis à un moment donné, comme vous l'avez dit, se pose la question. Est-ce que moi tout seul ou moi toute seule, je m'en tirerais pas mieux, quoi. Quand l'autre commence à vraiment flancher, voilà, je crois que c'est aussi la question qui me travaille également, de la solidarité, de comment on fait avec les autres, dans les conditions difficiles. Est-ce que ça va exacerber la solidarité ou au contraire, est-ce que ça va détruire les liens sociaux, quoi?
Et effectivement, de comment on survit une fois qu'on n'a plus la technique, une fois qu'on n'a plus notre confort devenu tellement habituel en fait qu'on ne s'en rend plus compte. Dans le livre, il y a de grandes descriptions du lieu, du milieu dans lequel il se retrouve coincé. Vous avez dit que c'était inspiré de la Géorgie du Sud. Vous l'avez pas dit là, mais vous l'aviez dit à l'époque. Il y a cette base baleinière abandonnée dans laquelle ils vont se réfugier. Mais il y a donc surtout ces deux personnages, la manière dont ce qu'ils vivent va les transformer. Lorsque vous décrivez tout le début de leur voyage, la traversée de l'Atlantique, les Antilles, le Brésil, l'Argentine, où ils vont se faire voler leur téléphone en se jurant qu'ils n'en rachèteront jamais. Vous écrivez, il y a tant de bons jours et si peu de mauvais, l'indécence de leur bonheur au regard du reste du monde ne les effleure pas.
Oui, c'est le cas peut-être pour nous tous qui sommes dans cette salle. Aujourd'hui, on a une indécence du bonheur et ça ne nous effleure pas et ça nous paraît normal. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas goûter ce bonheur. On a cette chance. Donc oui. Mais j'ai envie de dire, sans vouloir être du tout moraliste, que on a une sorte de redevabilité, quelque part, de ce bonheur-là, de cette facilité de vie qu'on a. On a une forme de devoir, à mon sens, de solidarité, de survie, parce que, in fine, on survivra pas seul. Jamais. Et même notre petite communauté, ici à Blois, ou en France, ne survivra pas seul. Même d'un point de vue très égoïste, on a évidemment besoin que tout le monde survive, tout le monde des humains et tout le monde des non-humains. Donc c'est cette espèce de façon qu'il faut qu'on ait et qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant d'envisager cette dimension, cette espèce de collectif de la planète Terre, quoi, qui fait que c'est vrai que trop souvent, finalement, on se restreint, on se renferme dans une sorte de petit bonheur un peu domestique et un peu, tant mieux, mais ça peut pas suffire, quoi. Et c'est ce qu'ils expérimentent, en fait.
ce livre sous d'un seul, je crois, et sa réception marque une étape aussi pour vous, Isabelle Autissier, écrivaine. Est-ce qu'à ce moment-là, vous arrivez davantage à vous considérer comme telle?
C'est-à-dire que, vous savez, je passe des pages sport. La navigatrice Isabelle Autissier écrit un bouquin et je passe aux pages littéraires. Isabelle Autissier a fait un roman. J'ai le grand honneur d'être sur la première liste du Goncourt à l'époque. Ça va s'arrêter là, mais pour moi, c'est quand même extraordinaire. Donc oui, tout d'un coup, il y a une espèce de saut un peu qualitatif. Bon, qui va pas changer ma vie, hein. Je change de tiroir, quoi, en gros. Je passe de héroïne de la course au large à écrivaine. Bon, très bien. Ça me dérange pas, ça. Oui. Mais oui, c'est vrai que ce livre a été très bien reçu, comme on dit. Et c'est une aventure en soi. Et c'est aussi impressionnant de voir son livre en librairie que de prendre un départ de course, quoi.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a, il y a un inconnu qui s'ouvre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a bossé. On a fait, à un moment donné, le bateau le mieux possible, ou le livre le mieux possible, comme on voulait qu'il soit pour ce qu'on a à en faire. Et après, il y a un moment où, ça y est, l'histoire advient. Et ça, on peut pas la lire, évidemment, à l'avance. Et cette partie de l'aventure, qui a un petit côté, un peu, pas angoissant, mais voilà, c'est aussi excitant, enfin, ouais. C'est tout un mélange.
Et justement, vous avez changé de rubrique, mais est-ce que le fait d'avoir été déjà présente dans les médias comme sujet, en fait, parce qu'il y avait des articles qui étaient écrits sur vous, navigatrice, est-ce que ça vous a un peu préparé? Est-ce que vous vivez les choses différemment lorsque l'on parle de vous comme écrivaine?
D'abord, ça m'a forcément aidée. Par rapport à d'autres gens qui écrivent un premier roman, moi j'étais déjà connue avant. Donc forcément, les journalistes me connaissaient déjà un peu, ou le public me connaissait déjà un peu, donc c'est sûr que ça m'a aidée. Après, ça change pas fondamentalement mon rapport ni avec le public, ni avec les médias, parce que j'en avais déjà l'habitude, et je sais ce que ça veut dire. Je sais, par exemple, avec le public, ce que c'est que cette espèce de construction collective qui ne se dit pas, cette espèce d'échange, que ce soit en course parce que les gens vont vous suivre, rêver de vos aventures, et etc., ou dans l'écriture en lisant votre livre. Et je trouve que dans les deux cas, c'est assez magnifique. Comment est-ce qu'à travers votre activité, votre action ou ce que vous produisez, vous donnez un sens? Et que ce sens, il est partagé. Et qu'à un moment donné, aussi, les gens vous renvoient quelque chose, forcément. Donc ça, c'est à la fois assez mystérieux et je trouve génial. Et pour moi, ça donne du sens très fort à ce que je fais, quoi. Avec les médias, je dirais ça a un côté un petit peu plus anecdotique, mais voilà, les médias font partie de l'univers dans lequel j'évolue. Donc j'ai aussi un peu l'habitude. Et puis moi, j'ai mes petites lignes rouges à moi. Et puis, comme toujours dans les médias, il y a ceux avec qui ça se passe très bien, c'est très agréable, et qui eux aussi ont bossé leur sujet. Et puis il y en a avec qui c'est moins facile ou moins agréable. Bon, c'est pas grave, c'est un côté plus professionnel en quelque sorte.
Alors ensuite, il y a Oublier Clara en 2019, qui est l'histoire de Youri, qui revient à Mourmansk 30 ans après en être parti et se retrouve à tenter de découvrir l'histoire de sa grand-mère scientifique arrêtée en 1950 pour activité contre-révolutionnaire. Et ensuite, il y a donc eu Le naufrage de Venise en 2022 qui raconte le déni et le déchirement d'une famille face à la catastrophe qui arrive pourtant bel et bien, Venise engloutie par les eaux. Dans vos 5 romans, il s'agit tout de même de personnages qui se retrouvent face à eux-mêmes, on l'a dit, face à leurs limites, à leur manque, face à leurs conditions humaines quelque part, et le fait est quand même que globalement ça se passe pas bien pour eux.
Je serais pas aussi négatif que ça.
Non, c'est vrai,
que Le naufrage de Venise, ça se passe pas bien parce que Venise disparaît quand même, hein. Donc voilà. Dans les autres, je laisse quand même une porte de sortie à mes héroïnes parce qu'en fait, de fait, ce sont plutôt des femmes qui finalement, sans que j'écrive la suite de leur existence après l'aventure que je raconte, elles ont une porte de sortie vers autre chose, quoi. Elles sont pas. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas les beaux héros et les bonnes héroïnes, ils furent heureux et ont beaucoup d'enfants, ça me casse les pieds, ça m'intéresse pas. Je trouve que ça correspond pas à ce qu'on est nous les uns et les autres, avec toutes nos complexités, avec nos choses magnifiques, avec nos horreurs, avec ce qu'on fait de bien, de pas bien, tout ça. C'est plutôt ça qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est plus proche de la vraie vie. Donc oui, ces héros en demi-teinte, ces gens qui se questionnent, qui font pas tout bien dans leur parcours, ouais, ça m'intéresse beaucoup plus.
Chacun à leur manière, vos romans ancrent vos personnages dans le monde et dans les mouvements du monde. L'amant de Patagonie, donc, c'est l'arrivée des Européens sur ces terres et tous les problèmes que cela pose. Oublier Clara, c'est le stalinisme et sa chape de plomb. Pour tenter de comprendre ce qui arrivait à sa grand-mère, Youri se tourne vers l'ONG Mémorial. Dans le naufrage de Venise, il y a cette fois en la technique incarnée par le MOSE, ce système de digues mobiles censé protéger la ville. On imagine que dans tous les cas, il y a un important travail de documentation. Comment procédez-vous et est-ce que c'est aussi ça qui vous plaît, Isabelle Autissier?
Ouais, moi je crois que je suis délibérément quelqu'un du réel, même si tout à l'heure j'ai dit que j'adorais les histoires et les rêveries. Mais pour moi, à un moment donné, les rêveries, il faut qu'elles s'incarnent, quoi. Faut que j'essaye ou que je vois. Donc je passe. Je produis pas beaucoup, j'ai pas une grosse production littéraire, mais si ça prend 4 ans, les 2 premières années, je fais que lire et que me documenter, éventuellement aller sur place et voilà. Parce que j'ai besoin de m'imprégner, j'ai besoin, et je trouve aussi que c'est une forme d'hommage indispensable aux lieux, aux gens dont je parle. Et c'est pas bien de raconter n'importe quoi. Voilà. Donc il faut au minimum avoir essayé de compris et avoir compris un peu l'environnement, les lieux, les gens, parler avec eux, voilà, lu des travaux d'historiens, de manière à être imprégné de ça avant de commencer à écrire. Et du coup, c'est très intéressant parce que, évidemment, j'en apprends plus. Et puis, ça me permet de nourrir le roman. Oui, de descriptions précises, de choses, parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'aime aussi quand je lis un roman, je sais pas, moi,
d'un Indien, quoi, d'ailleurs,
ou d'un Sud-Américain, ou des... j'aime bien qu'il me raconte à quoi ça ressemble, qu'il me parle d'une rue de Buenos Aires ou d'une rizière de je ne sais où. Enfin, voilà, j'aime bien rentrer dans le réel, quoi. Donc j'essaye de le faire à mon niveau.
Et à quel moment, justement, l'écriture arrive-t-elle dans ce processus? À partir de quand vous vous dites, c'est bon, je suis assez imprégnée, je me mets à écrire?
Je ne sais pas s'il y a un déclic. Je pense qu'au fur et à mesure que je fais ce travail de documentation et de... En fait, je pars toujours d'une situation, d'un moment. Dans le naufrage de Venise, ben voilà, ça commence par cette promenade que fait mon héros Guido dans Venise détruite. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer après ou avant. Quand je commence à écrire, je me raconte l'histoire à moi-même. C'est peut-être aussi pour ça que ça me prend du temps, parce qu'il faut que je la rêve peut-être pendant des jours et des jours avant de pouvoir l'écrire. Mais je parle d'une situation et j'ai l'impression de tirer un fil et de me dire, voilà cet univers dans lequel sont mes personnages. Ben, comment est-ce qu'ils vont interagir entre eux? Comment est-ce qu'ils vont interagir avec la réalité? Qu'est-ce qui va se passer? Et même souvent jusqu'à 30 pages de la fin, je sais pas comment ça va finir. Moi-même. Donc mon éditeur a des fois des sueurs froides, moi aussi. Mais bon, voilà, c'est... Je ne sais pas comment se fait ce processus. Oui, je pense qu'il se fait peut-être pendant que je dors, que je rêve de mes personnages. Mais il y a une façon de tirer le fil petit à petit d'une situation.
Il y a cette expression très belle que l'on retrouve dans vos romans, dans certains en tout cas, mais aussi dans vos autres écrits, récits, livres d'entretien. Entrer en solitude pour décrire ce que peut être l'expérience de la mer. Et ce qu'écrire, Isabelle Autissier, c'est aussi un peu pour vous entrer en solitude. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun?
Oui, il y a quelque chose de commun. Oui, oui, il y a ce départ, le moment où vous levez l'encre, sans faire de jeu de mots entre encre et encre, c'est un peu ça, quoi. C'est cette espèce de moment où il y a une implication totale de vous-même, de tout ce que vous êtes. Même si vous êtes assise dans le canapé avec un ordinateur, c'est quand même tout votre individu, tout votre être qui se lance derrière l'horizon, derrière la page blanche, derrière... Et ce moment-là, vous êtes forcément toute seule. Il peut y avoir des gens autour, à côté. N'empêche que c'est vous toute seule qui êtes sur le bateau ou qui êtes devant votre ordinateur. Donc, ça, c'est aussi un peu mystérieux. C'est comment on arrive à mobiliser tout ça, toutes ces ressources, ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris à faire, pour créer une histoire, au fond, pour écrire une histoire ou pour la vivre quand on est en bateau. Mais c'est un peu pareil. Et c'est en ça qu'il y a de la solitude. C'est pas, évidemment, sur un bateau, il y a aussi une solitude physique, un éloignement plutôt d'ailleurs qu'une solitude. Puisque je dis souvent que quand je suis dans le Pacifique Sud, l'homme le plus proche, c'est Thomas Pesquet. Oui. De très loin. Les autres sont beaucoup, beaucoup plus loin que lui. Bon, il peut pas grand-chose pour moi. Donc voilà, donc il y a ça. Mais c'est vrai que c'est la solitude au sens où nous sommes uniques. On est seul, on meurt seul. Entre les deux, on a plein de gens autour, mais quand même, on est unique, donc on est seul.
Où écrivez-vous, Isabelle Autissier ? Vous vivez à La Rochelle, mais vous voyagez, vous naviguez plusieurs mois par an. Est-ce à La Rochelle que vous écrivez ? Est-ce que vous avez besoin d'un cadre d'écriture qui serait toujours un peu le même ?
Oui, alors je me rends compte que j'écris toujours pareil, dans le canapé, donc,
voilà,
avec le petit ordinateur portable. C'est même pas mon gros ordinateur de bureau, j'aime pas écrire au bureau, que j'ai souvent sur les genoux, et j'ai la chance d'avoir un petit jardin, donc il y a le jardin par la fenêtre. Et là, il me faut 3 ou 4 heures tranquille pour que je re-rentre à chaque fois dans mon univers, dans cette espèce de rêverie, d'histoire, d'écriture, de... Donc, je me rends compte que c'est comme ça que j'écris le mieux. Je peux pas du tout écrire quand je suis en mer, parce que quand je suis en mer. Et donc, j'ai quand même cette chance. Et ce serait un peu stupide de m'enfermer à l'intérieur du bateau et de pas être sur le pont en train de regarder ce qui se passe. Puis comme en général, je suis skipper, il faut aussi que je m'occupe du bateau. Voilà. C'est là que je disais tout à l'heure, je suis un peu éponge de tout ce qu'il y a autour de moi, mais j'écris pas. Le reste du temps, j'ai une vie assez... je fais beaucoup de choses et donc j'ai pas tellement le temps et puis j'ai pas envie, je pourrais pas écrire dans le train ou à l'hôtel ou je sais pas où, j'ai besoin de cette espèce d'intimité qui je pense est assez apaisante pour moi. Je suis dans mon petit cocon là, donc il y a pas d'intrusion extérieure et donc du coup l'intérieur peut se libérer quoi.
Là, vous en êtes donc à 5 romans. Je vous ai entendu dire récemment dans un entretien, je sais pas si on aura un prochain. Que faut-il pour qu'il y ait un prochain roman, Isabelle Autissier ? Qu'est-ce qui déclenche l'envie, le besoin d'écrire et d'écrire un roman ? Parce que vous pouvez aussi écrire d'autres choses.
Bien sûr. Alors quand même, j'y ai pris goût au roman parce que le roman, c'est génial. On peut raconter ce qu'on veut, quoi. On peut être à n'importe quelle période de l'histoire, n'importe où, même en 2292. Donc ça, c'est quand même magnifique. Et donc j'aime bien ça. Après... Je sais pas très bien ce qu'il déclenche. À un moment donné, peut-être. Pour l'instant, par exemple, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'envie, j'ai un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, mais ça peut venir tout de suite, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans. C'est pas mon métier, donc j'ai pas d'obligation. Et je le ferai vraiment si je le sens, si j'ai envie, c'est ça. Un peu un thème qui me travaille, qui m'interpelle, comme là sur Venise, c'était la question du déni. Et donc j'avais envie d'essayer de parler de ça. Et après, Venise est arrivée, c'est un peu imposé comme étant une espèce d'exemple magnifique du déni. Donc voilà, il y a un moment donné, je sais pas, mais je m'oblige pas, je me laisse aller là aussi.
Vous avez souvent raconté cette expérience, Isabelle Autissier, de retour d'une course au large. Je crois que c'était le Vendée Globe. Vous êtes à l'arrivée, vous devez intervenir à la télévision. Vous avez le retour de l'image sous la caméra. Et avant votre passage, vous voyez les publicités et vous vous demandez ce que c'est, en fait. Vous vous demandez ce que c'est que ce monde tellement loin de ce que vous venez de vivre. Alors justement, comment vivez-vous ? Comment gérez-vous, même, je vous en ce mot, ces va-et-vient entre des moments où vous êtes très loin de l'agitation du monde, dans ce que ça peut avoir de plus bruyant, superficiel, etc., et les moments où vous êtes dedans, où vous êtes quand même très présente dans ce monde-là, parce que vous êtes aussi dans les médias, parce que vous avez des fonctions de représentation, parce que, voilà.
Je pense que j'aime bien les deux, mais j'ai besoin des deux, en fait. La première chose que je mets dans mon agenda en début d'année, c'est les 2 mois et demi où je vais naviguer. Ça, c'est pas négociable.
Ça, c'est plutôt l'été, c'est ça ?
C'est en ce moment plutôt l'été, puisque le bateau, là, je l'ai laissé pour l'hiver en Islande. En ce moment, je navigue dans le Grand Nord, donc c'est plutôt l'été quand il fait jour et qu'il n'y a pas trop de glace. Donc ça, c'est indispensable parce que j'ai absolument besoin de ces moments, comme vous dites, où je suis ailleurs. Je suis dans le rythme du monde naturel, de la nature, de la vague, du vent, des oiseaux qui passent. J'ai besoin de ça, mais c'est physiologique, quoi. C'est ça qui va me redonner de l'énergie, qui va... Et puis, en même temps, je suis quelqu'un... J'ai toujours été préoccupée, même quand j'étais petite fille, j'étais préoccupée de la marche du monde, de ce qui se passait, ça m'intéressait. Très jeune, j'ai été militante pour des choses, donc j'ai envie de participer. du monde des humains que j'aime, qui m'intéresse. J'ai une grande famille, plein d'amis, plein de, voilà. Donc tout ça compte pour moi et j'ai envie d'être présente à ça. Donc il y a cette espèce d'équilibre. J'ai l'impression de marcher sur mes deux pieds grâce à ça. Il y a ces moments d'espèce de sérénité et de réalité du monde, du monde physique, du monde vivant. Il y a des moments qui sont, ben voilà, les moments qu'on connaît tous, qui sont les mondes de notre organisation humaine, qui est parfois un peu trop loin d'ailleurs de la réalité, mais enfin, ça c'est encore un vaste sujet.
À la fois désireuse de prendre le large et en même temps d'être présente au monde tel qu'il est. C'est aussi le sens de votre engagement au WWF France. C'était aussi effectivement votre... Vous le dites là, vous l'avez dit rapidement, mais effectivement, vous étiez engagé des lycées, dans les combats de la gauche à l'époque des années 70. Tout ça pour dire donc que le goût de la solitude et le décalage que vous avez pu, que vous pouvez encore peut-être parfois ressentir avec une partie de la communauté humaine, ne vous a pas rendu, et on terminera avec ça, mais ne vous a pas rendu misanthrope.
Pas du tout. Oui, peut-être ça aurait pu. Mais vous savez, quand vous êtes en mer, le monde des humains prend une importance extraordinaire. Parce que tout d'un coup, vous vous sentez petit humain tout seul très loin, et au fond, vous vous rendez compte là que ce qui vous fait vivre, c'est les autres. Et les quelques paroles que vous allez échanger avec votre compagnon, avec votre famille, avec votre équipe, tout d'un coup, ça prend un sens extrêmement fort, et le bruit du monde devient un bruit très fort. Je me souviens d'avoir fait un tour du monde, c'était le début de la guerre du Golfe, et tout d'un coup, ça me percutait d'une manière terrible, que moi, j'étais dans un environnement magnifique, beau, il y avait les oiseaux, les baleines, tout ce qu'on veut, et puis il y avait des gens qui se faisaient la guerre, et ça prend une autre dimension. Donc, au fond, naviguer seul m'a rapproché des autres, je pense.
Les autres qui viennent vous voir, on imagine assez facilement, Isabelle Autissier, parce que, quand vous êtes ici à terre, parce que, voilà, vous êtes une personnalité populaire, très identifiée. Vous aimez ça, le fait qu'on vienne vous parler comme ça ?
J'aime bien qu'on vienne me parler parce que j'aime bien les échanges, j'aime bien les gens. Alors c'est vrai que souvent les gens sont gentils, ils me font des compliments, donc c'est très agréable. Mais même quand ils sont critiques, je trouve que c'est important. Oui. J'ai essayé ça. À un moment donné, j'ai décidé de mettre ma notoriété entre guillemets au service de choses qui m'importent et entre autres qui sont les questions environnementales. Donc j'aime cet échange humain. Si je fais ça, c'est pour notre communauté humaine à nous tous, évidemment moi là-dedans bien sûr, je pense que j'arrive à avoir ma porte à peu près toujours ouverte. Je dis j'arrive parce que des fois je croule un peu, mais oui, c'est toujours vraiment agréable quoi.
Merci beaucoup pour cette masterclass, Isabelle Autissier.
Merci beaucoup.
C'était la masterclass d'Isabelle Autissier avec Chloé Cambrelin, enregistrée au rendez-vous de l'histoire de Blois. Attachée de production, Corinne Amar. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Johanna Gabric, Christophe Papon, Charles Bouticourt et Jean-François Georges. Chargée de production, Franck Malabry. Réalisation, Perret Legras.